Anne-Marie Aubin, bonjour.
Bonjour, Hélène.
Anne-Marie, vous êtes en Gaspésie?
Oui.
Oui, comment ça va? Vous avez passé un bel été? Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé.
Ça fait longtemps, effectivement. Oui, j'ai passé un été très occupé parce que la Gaspésie, l'été, c'est comme le lieu de vacances de tellement de gens.
Ah oui, vous recevez des gens, vous, chez vous?
Oui, beaucoup. Les amis, la famille qu'on n'a pas vu pendant tout l'hiver.
L'auberge Anne-Marie.
Voilà, c'est à l'auberge. Et puis là, bon, ben, ça se calme un peu avec la rentrée des classes. Mais des fois, ça reprend pendant la période de la chasse, de la motoneige.
Oui, mais l'été n'est pas fini non plus.
Non. Puis là, ben, je pense que dans les prochaines semaines, je vais avoir un petit peu de repos parce que ça a couru pas mal tout l'été. Mais j'ai quand même eu le temps de lire.
Oui.
Et puis, justement, aujourd'hui, le livre que j'ai lu dimanche en quelques heures m'a vraiment beaucoup passionnée, interrogée. Et je pense que beaucoup de gens vont prendre intérêt à le lire.
Bien, c'est un titre qui attire notre attention. « Pourquoi je n'écris pas? Réflexion sur la culture de la pauvreté ».
Oui, aux éditions Triptyque. C'est paru en janvier. C'est un petit livre de 129 pages, mais très dense. C'est dans la collection Difforme qui est dirigée par Nicolas Dawson qui réunit finalement ce qui n'est pas de la fiction, qui sont des essais, mais des essais dans lesquels les gens vont être audacieux, je dirais ça comme ça. Et l'auteur, Benoît Jaudoin, est un jeune auteur, il est né en 85 à Belleuil, donc il a 39 ans. Il a beaucoup écrit. C'est ça qui est étonnant parce que il dit pourquoi je n'écris pas. C'est qu'il a fait une maîtrise en histoire de l'art. Donc, il a publié un mémoire. Il a fait ensuite un doctorat à l'université à Paris en co-tutelle avec Montréal. Ben, il a quand même écrit une thèse. Il a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées.
Alors, quand on sait ça, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi il écrit? Pourquoi je n'écris pas?
Alors, voilà, c'est parce que tout ce qu'il a écrit, c'était des choses qui étaient extérieures à lui. Il dit « Je n'ai jamais écrit au « je », c'est la première fois ». Et à la première page, quand on ouvre le livre, ça dit « Je ne suis pas écrivain. Depuis 20 ans, je tourne autour de l'écriture. Je veux dire que je l'étudie, je la commente, je la lis, sans jamais vraiment m'y mettre activement. Passer à l'acte, écrire. Par écrire, j'entends m'exprimer depuis mes propres préoccupations, mes expériences, faire confiance à ma voix, prétendre à la littérature. » Alors, selon lui, dans cet essai, qui est le fruit de toutes ses lectures sur, la place de la culture dans l'écriture, enfin, toutes sortes de sujets qui le préoccupent, c'était extérieur jusqu'à ce que là, il écrive au « je ». C'est comme un récit de vie, mais c'est en même temps un essai parce qu'il a lu beaucoup et il nous livre le fruit de ses lectures, mais d'une manière très accessible et vulgarisée. Ce n'est pas un livre savant. C'est un livre très personnel. Et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que tout ce temps-là, ben, il s'est caché dans la lecture, dans l'écriture des autres. Et il dit, je me suis plongée dans la lecture, me suis effacée derrière des œuvres, me suis consacrée à l'enseignement, à l'édition, à la recherche, pour éviter d'expérimenter l'écriture de l'intérieur. Ben, lui, selon lui, la lecture, c'est l'écriture des pauvres, de ceux qui vont chercher à se reconnaître dans les autres sans jamais oser. Il dit « La lecture est une écriture de l'effacement ». Alors, il dit que depuis 20 ans, il lit beaucoup, il fait des notes, des fiches sur ce qu'il lit, prend beaucoup de citations, il en emprunte beaucoup, il en achète un peu. Puis, il dit que la bibliothèque, pour lui, là, c'est un geste de création, comme si un mélomane, par exemple, qui ne joue pas d'instrument, se fait des playlists. À quelque part, c'est comme la projection de ce qu'on serait si on était. Alors, moi, j'ai entendu dire que beaucoup de gens comme ça deviennent journalistes ou professeurs de littérature, plongés dans les œuvres de tout le monde, surtout les savants à l'université, à défaut d'écrire eux-mêmes.
C'est un drôle de regard, c'est quand même un négatif. Comme si on était tous des écrivains ratés, ceux qui ne font que lire.
Tout le monde n'a pas l'intention de devenir auteur. Lui, je pense qu'il le sait depuis qu'il est tout petit.
Non, je sais, mais son regard à lui, il porte ce regard-là, mais c'est plus personnel, c'est ça. Les lecteurs en général qui sont visés, là.
Peut-être pas, mais je pense que j'en connais plusieurs des universitaires comme lui. C'est un savant, là. Il a un doctorat. C'est pas un lecteur ordinaire.
Un docteur en littérature, mais qui aimerait devenir romancier, donner sa voix, sa vision du monde à travers une œuvre littéraire.
Puis il s'est beaucoup intéressé à l'art. Lui, son doctorat est en histoire de l'art, surtout. Alors, lui, il s'est beaucoup penché sur qu'est-ce que les gens aiment. Par exemple, il nous dit que le monde, en général, quand il parle d'un artiste en art visuel, souvent, ils vont parler de sa vie. Je sais pas, moi, la vie de Picasso, plus que d'analyser son œuvre. C'est vrai que souvent, on est touché par la vie des
La biographie, oui.
Oui. Et puis, bref, il nous dit, en entrée de jeu, là, je suis pas écrivain, mais avec ce livre-là, je vais essayer de comprendre pourquoi. Puis là, il va trouver plusieurs causes à ça. Et là, il va aborder plein de pans de la vie d'un être humain. Et lui, il a évidemment choisi de parler de son cas à lui, mais plein de gens vont se reconnaître dans cette œuvre-là. Donc, il y a question de la culture, de l'éducation qu'on reçoit à l'enfance, qu'on vit, les classes sociales dans lesquelles on se trouve, la pauvreté de la littérature, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté économique, l'anxiété que ça va créer chez lui, qui est un queer, et les livres de croissance personnelle, il aborde ça d'une manière très ouverte, alors que les intellectuels snobent toujours ces livres-là. Lui dit qu'au contraire, il aime bien en lire et il croit qu'ils sont très forts.
Est-ce qu'il donne des suggestions?
Oui, il cite des passages, par exemple, où si tout le monde mettait en pratique ce que les livres de croissance personnelle proposent, il se passerait des grands changements. Lui, il fait partie de l'élite en étant un docteur, mais en même temps, il va nous dire qu'il est très pauvre et qu'il arrive à peine à payer son loyer. Puis il dit, je cite, « Sur papier, je suis docteur, chargé de cours à l'université et critique d'art. En vérité, les 17 842 $ inscrits à la ligne 199 de ma dernière déclaration fiscale suffisent à peine à payer le loyer de mon logement, à prix modique, et s'apparente directement à ce que ma mère inscrivait sur la sienne au début des années 1990. »
Quoi, c'est son salaire, ça, 17 000 et quelques?
C'est son salaire. Et je raconte pas ça pour faire pitié, mais parce qu'on s'imagine toujours qu'un docteur, un chargé de cours dans l'histoire de l'art qui enseigne à l'université, ça gagne une fortune. Effectivement, j'ai enseigné longtemps. Quand tu es chargé de cours, c'est de la misère. J'ai fini par arrêter parce que c'était beaucoup trop de travail pour le petit salaire que ça donnait.
Mais oui, et vivre sous le seuil de la pauvreté, là, ça...
C'est exactement
c'est
ça.
Assez misérable.
Donc, il a beaucoup d'anxiété, en général, mais aussi toujours à se demander s'il va gagner sa vie, s'il va être capable de payer. Il a commencé en secondaire 5 à travailler de nuit au Tim Hortons pour payer ses études et s'acheter des vêtements et tout ça. Alors, son enfance est brimée dès qu'il est très jeune. Et ça, beaucoup de gens le font. Moi, je travaillais au McDo, je nettoyais les machines le soir après la fermeture pour payer mes études.
Ouais.
Mais j'étais pas dans un milieu aussi défavorisé, par contre. Alors lui, il raconte qu'il est né dans un monde hostile. Il dit, on a le choix de se détruire pour s'y harmoniser ou fabuler pour s'inventer une chambre à soi. Donc déjà, tout petit, il est dans l'imaginaire. On comprend qu'il est un écrivain qui a quelque chose à exprimer, mais qui n'osera jamais. Il nous dit, je passais des heures seule à me balancer au parc-école en m'imaginant devenir une vedette internationale, riche et populaire. Il dit, en parole, dans le monde, j'étais hors de moi. Seul, en silence, je me retrouvais, secrètement, solitairement. J'ai appris à me taire pour ne pas me trahir. Ah ben ça, c'est le cas de plein d'enfants qui sont différents et qui s'isolent parce qu'ils sont soit, je ne sais pas, moins autistes ou handicapés ou rejet. Mais lui, c'était très fort chez lui parce qu'il avait ce sentiment qu'il avait quelque chose à raconter, mais il n'y avait pas la confiance en lui. Puis il considérait que ce qu'il avait à raconter, c'était banal parce qu'il vivait dans un milieu où il n'était pas valorisé. Alors, son récit est très intime, très personnel. Il livre sa déclaration fiscale, ça donne une idée.
Mais oui, il ouvre son cœur, il ouvre son compte de banque.
Effectivement, puis à tout moment, il cite les auteurs qu'il a lus, les grands théoriciens qu'il a lus, mais de manière très accessible. Et évidemment, il parle pour lui. Il dit que lui, évidemment, il a manqué beaucoup de choses pour écrire. Il dit « Ce manque traverse la culture depuis laquelle écrire « je » est un risque parfois jugé trop grand. » Puis on est plusieurs au Québec à avoir vécu ça parce que, c'était pas valorisé dans le milieu ou, on était souvent découragés avant de commencer. Donc, selon lui, sa thèse, c'est que les classes sociales, économiques, qui ont privé toute sa vie de la création, c'est dû beaucoup à la culture de la pauvreté. Et que c'est pas quelque chose qui se voit quand tu regardes des gens, c'est quelque chose de l'intérieur. Il dit ce mode de présence au monde où l'on tente de combler les trous, les absences, les blessures pour vivre tant bien que mal, je me rends compte aujourd'hui qu'il est responsable de ma peur de créer. Il y a une peur, effectivement, d'être rejeté. Et j'ai retrouvé là-dedans, évidemment, des allusions qu'il cite, entre autres avec Édouard Louis, Caroline Dawson, et j'ajouterais Jean-Philippe Plou.
Oui, j'ai pensé à lui aussi.
Qui a publié après, parce que lui, c'est sorti en janvier, et Jean-Philippe Plou, c'est sorti au printemps. Là.
Oui, les questions du transfuge de classe, voilà, là, un concept exactement. Très, très à la mode, là, surtout en France, mais qui commence à... dont on parle beaucoup, justement, depuis la sortie de l'œuvre de Jean-Philippe Plou.
Oui, et il dit, lui, « Ma sœur et moi, on était les premiers de la famille à avoir amorcé des études universitaires. » Il dit, « Dans mon monde, l'éducation, c'était quelque chose pour accéder à la réussite économique. » Donc, il dit, « Moi, j'ai décidé d'aller en études littéraires. » Je me souviens que mon père a eu la même réaction quand j'étais en littérature. Il m'a dit, « Qu'est-ce que ça va te donner ?» Pour lui, c'était de la perte de temps. Mais on comprend ce que dit Jean-Philippe Plou. Il a récemment été interviewé par rapport au succès étonnant de son livre. Ben, il dit, « C'est parce qu'on n'est pas sorti de la révolution tranquille. La lutte des classes existe encore. » Puis c'est cette lutte-là, selon d'où tu viens, a pu brimer beaucoup de gens. Et il parle d'Édouard Louis parce qu'effectivement, le livre « Pour en finir avec Eddie Bellegueule » a connu un grand succès ici, puis tous ses livres en général, où il va parler d'homophobie et de pauvreté, tout comme l'auteur ici, Benoît Jodoin. Toutefois, il nous met bien en garde de ne pas faire des parallèles trop grands parce que la misère ici, ce n'est pas celle du nord de la France. Lui, il est arrivé sud de Montréal, l'auteur ici. Puis il dit que, bon, être un bourgeois en France, ça n'a rien à voir avec ici. Ici, on appelle ça un riche, un bourgeois, c'est quelque chose de péjoratif souvent. Et il dit qu'au Québec, ici, la misère n'est jamais bien loin. Beaucoup ont un grand-père ouvrier, une grand-mère, qui a élevé seule une famille nombreuse à son corps défendant dans la pauvreté la plus extrême sous la pression de l'Église catholique. Alors, on n'est pas bien loin de la Révolution tranquille. Et puis, il semble qu'on n'en est pas sorti parce que la lutte des classes existe encore. Présentement, on dit qu'il y a presque plus de classes moyennes. On est de plus en plus des pauvres et des très riches. Donc, on recule, si on peut dire.
Mais c'est vraiment passionnant parce que, justement, je ne sais pas si vous avez lu la presse d'aujourd'hui, mais à la une, il y a Michel-Maxime Legault qui se livre sur son parcours, qui l'a fait passer de la ferme à la scène. Là, il y a sa pièce de théâtre qui va être très bientôt présentée au Théâtre Denise Pelletier. Alors, lui, il voulait absolument pas travailler sur la ferme, mais en même temps, il faut pas non plus mépriser les agriculteurs parce qu'il y a des intellectuels ou il y a des gens qui viennent d'un milieu intellectuel qui veulent devenir agriculteurs aussi.
Exact. Oui, il se passe l'inverse présentement, justement, un retour vers une culture biologique. Et puis, c'est le cégep de Victoriaville, je crois, qui a ce programme-là puis qui refuse des dizaines d'étudiants à chaque
session. C'est pas Saint-Hyacinthe, c'est Victoriaville, oui?
Oui, Saint-Hyacinthe a l'ITA, mais n'offre pas le cours de culture biologique.
Ah, d'accord.
Alors, ils sont un peu en tort, là, mais à Victoriaville, ça marche énormément. Et, ben justement, c'est plus être pauvre, être un agriculteur, c'est être riche, parce que c'est avoir sa culture biologique dans sa cour, sans pesticides et tout ça. Et dans cette situation de pauvreté, quand il parle de Caroline Dawson, il explique qu'elle a été interviewée un certain temps par rapport à la fête des mères, où elle disait qu'elle n'éduquait pas ses enfants comme elle a été éduquée parce qu'elle est ailleurs aujourd'hui d'une manière différente. Alors, elle dit ça, c'est comme rejeter ce qu'on a reçu. Elle dit qu'elle a beaucoup d'audace et elle dit que dans la culture de la pauvreté, surtout en situation queer, écrit se vit souvent comme un geste de rupture avec la famille.
Caroline Dawson, dont on aurait aimé lire plus d'œuvres, malheureusement, elle nous a quittés.
Oui, puis elle a su garder contact avec sa famille malgré tout ça. Elle est différente et ses parents sont en très bonne relation avec elle malgré tout. Alors, ce livre-là, donc, ne parle pas juste de son cas. Je pense qu'il explique comment c'est difficile pour quelqu'un qui est né dans un milieu pauvre d'accéder à la littérature à côté des gens qui, comme il dit, qui ont grandi à Outremont et qui parlent de la pauvreté, mais d'une manière intellectuelle, mm-hmm. qui ne l'ont jamais vécu et qui sont dans le champ, il faut le dire carrément, c'est pas ça du tout. Puis ça, ben, c'est...
Même s'ils sont à Outremont, ils sont dans le champ.
Oui, c'est ça. Puis on le voit à l'UQAM, qui se veut une université qui est, bon, populaire, où il y a quand même là, une confrontation. J'ai des amis qui étudient là puis qui me disent comment c'est difficile la confrontation des idées, parce que de plus en plus, de nos jours, les gens qui ont des idées différentes de toi, ils adhèrent pas, ils t'écoutent pas, ils ont leur idée fixe.
Oui, on préfère les chambres d'écho, entendre ce qu'on a envie d'entendre.
Ouais. puis parler avec des gens qui pensent comme nous, c'est ça. Et puis bon, ben ça, c'est présent, puis ça me faisait penser finalement aux luttes de classe depuis, je sais pas moi, Émile Zola, puis Victor Hugo et tout ça. On dirait qu'on n'a pas beaucoup changé par rapport à tout ça.
Ça fait grandement réfléchir, cet ouvrage-là, et ça suscite des discussions très riches.
Oui, oui, parce que le rapport à la lecture, que ce garçon-là, il est plus cultivé que la moyenne, là, même s'il dit qu'il vient d'un milieu pauvre, on voit qu'il a fait du chemin et que ça lui a pris du temps. Il dit qu'il est en retard, parce qu'il a pris du temps, il travaillait, il est retourné aux études, il n'a pas fait ça dans un cursus normal, il se sent en retard, mais par contre, il a une très grande richesse de vie, une expérience extraordinaire. Et il dit que le temps, ben, ça se rattrape pas, puis ça laisse des blessures. Puis ça, c'est vrai, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se sont repris parce qu'ils n'ont pas pu vivre ce qu'ils voulaient. Puis ils ont toujours ce sentiment-là. J'ai entendu ça beaucoup. Fait que, bref, moi, j'ai été bouleversée par ce livre-là. J'ai adoré ça. Et à la fin, il nous dit, j'écris pour exister culturellement. J'écris pour apprendre à prendre parole. Écrire mon histoire se fait dans la douleur. Ce projet implique de replonger des mois dans ce que j'ai voulu fuir. Alors, oui, c'est comme une thérapie en même temps qu'il fait. Puis
alors, Anne-Marie, on va rappeler le titre. « Pourquoi je n'écris pas? Réflexion sur la culture de la pauvreté aux éditions Triptyque, collection difforme, une collection dirigée justement par le frère de Caroline Dawson, Nicolas Dawson. » Merci beaucoup pour cette chronique.
Ben, merci.
À la semaine prochaine, à dans deux semaines.
Merci, au revoir.
Et restez avec nous après la chanson d'11 heures. On parle d'économie en compagnie de Michel Poitvin.